Henri, donneur de voix numéro 318 de la Bibliothèque Sonore, Grenoble, Isère. Extrait de la lettre de confinement numéro 40 d'Olivier Calon. Le mot du jour. Attendre. Attendre, J-13. Autrefois, le verbe, qui était alors pronominal et écrit avec un seul T, signifiait s'appliquer à. On retrouve cette même racine dans attention. Attendre, c'était porter attention. Le sens actuel de patienter apparaît vers le XIIe siècle. Au XIXe, un dicton, aujourd'hui disparu, était encore largement utilisé. Attendez-moi sous l'orme. Il avait un sens ironique et évoquait un rendez-vous auquel on n'avait pas l'intention de se rendre. Pourquoi ? Parce qu'au Moyen-Âge, les Parisiens avaient l'habitude de se donner rendez-vous près de l'hôtel de ville, sous l'orme du parvis de l'église Saint-Gervais, pour régler leurs créances. Un rendez-vous dont ils se seraient volontiers passés. Cet orme fut abattu à la Révolution pour fabriquer des affûts de canons. Mais l'expression lui a un temps survécu. André Roussin dit « J'ai remarqué souvent que les gens qui sont en retard sont de bien meilleure humeur que ceux qui ont dû les attendre. » La pensée du jour de Bertrand Russell. L'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sûrs d'eux, et les gens sensés pleins de doutes. Le poème du jour, Clotilde, de Guillaume Apollinaire. L'anémone et l'ancolie ont poussé dans le jardin, où dort la mélancolie entre l'amour et le dédain. Il y vient aussi nos ombres, que la nuit dissipera. Le soleil qui les rend sombres, avec elles disparaîtra. Les déités des eaux vives laissent couler leurs longs cheveux. Passe, il faut que tu poursuives cette belle ombre que tu veux. Anecdote littéraire. Né en 1803 d'un Péruvien de grande famille et d'une Française qu'il n'avait pas épousée par négligence administrative, Flora Tristan se qualifia toute sa vie de paria. Brusquement veuve et démunie, sa mère retourne à Paris avec ses deux filles. Flora devient coloriste et à 18 ans épouse le peintre André Chazal. Elle écrira « Ma mère m'obligea à épouser un homme que je ne pouvais ni aimer ni estimer. À cette union, je dois tous mes maux. Elle a rapidement 3 enfants, mais sa vie conjugale devient un enfer. Elle s'enfuit, doit se cacher. Son mari tente de lui enlever les enfants, puis de l'assassiner à coups de revolver. Flora quitte la France, voyage en Angleterre, puis dans son Pérou natal. Elle rentre en France sans un sou, mais riche d'observations. Dans 2 livres, « Promenade dans Londres » et « Les pérégrinations d'une paria », elle raconte ses errances. Sa conscience politique s'affine et Flora entreprend un tour de France pour prêcher l'émancipation des travailleurs et d'abord des femmes. Elle prône le divorce, l'union libre, l'indépendance. Sans avoir achevé son tour de France, elle meurt épuisée à 40 ans à peine, 4 ans avant la révolution de 1848. Au cimetière de Bordeaux, une colonne brisée fut érigée cette année-là en son souvenir. On peut y lire « À la mémoire de Flora Tristan, auteur de L'Union ouvrière, les travailleurs reconnaissants. » La même année naquit le petit-fils de Flora Tristan, le peintre Paul Gauguin. Anecdote historique. Marie-Anne Lenormand, plus connue sous le nom de Mademoiselle Lenormand, fut la plus célèbre voyante de son temps. Née à Alençon en 1772, très tôt orpheline, elle est placée en apprentissage à 11 ans chez une couturière. La découverte de ses dons de voyance va changer son destin. Elle s'installe à Paris. Un an après, elle est arrêtée pour pratique magique, mais est vite relâchée. Elle s'installe rue de Tournon, où son cabinet ne désemplit pas. Elle accueille d'abord des artistes, puis de nombreux jacobins. Il faut dire que leur salle de réunion jouxte son cabinet. Le comte de Provence, futur roi Louis XVIII, Fouché, Desmoulins, Bonaparte, viennent la consulter. C'est du moins ce qu'elle écrira dans ses mémoires. Ensuite, avec deux complices, elle se fait passer pour une Américaine, donnant à ses prédictions une touche d'exotisme qui accroît encore son succès. Mais un client porte plainte pour escroquerie et Mademoiselle Lenormand se retrouve en prison. L'apogée de sa notoriété viendra avec l'Empire. Elle est la confidente de Joséphine de Beauharnais. Elle reçoit Talleyrand, Talma, Madame de Staël, Metternich. Grâce à elle, Paris devient la capitale mondiale de la voyance. Après l'Empire, elle écrira plusieurs livres qui sont autant d'auto-célébrations et son enterrement en 1843 fut fastueux. 2 ans après sa mort, fut édité avec un grand succès un jeu de tarot baptisé Le Petit Lenormand.